des hommes et des sons.
À l'occasion de la semaine du son et du festival Longueur d'onde, 37.2 et Récréation sonore vous proposent de réécouter les 5 œuvres primées lors de la dernière édition des Phonurgia Nova Awards. Documentaire, fiction, art sonore, les 5 œuvres écoutées couvrent tous les domaines de la création radiophonique. Et qui dit radio dit micro, et qui dit micro dit auteur. Chaque soir de la semaine, vous entendrez donc le portrait de l'auteur dont on diffusera l'œuvre. Ce soir, on écoute De guerre en fils, une série primée dans la catégorie fiction francophone. On retrouve tout de suite son auteur François Perrache et sa réalisatrice dans un portrait réalisé par Virgile Blanc et Clara Lacombe pour 37.2.
Dites 37.2.
37.2.
Vous avez 37.2 messages archivés.
Quand on trouve quelqu'un avec qui on est complémentaire, c'est quand même extraordinaire. C'est génial, quoi. Quand on sait plus qui a fait quoi, quand on est comme ça dans quelque chose... On s'apporte mutuellement, enfin, c'est fou, quoi.
C'est quatrième ou cinquième?
Cinquième.
Cinquième étage gauche. On en est au combien?
Deuxième, non?
Cette semaine, un duo 37.2 part à la rencontre d'un autre duo de la radio.
Allez-y, entrez, je suis bon, parce que dans le salon, merci.
Sabine et François ont réalisé la série De guerre en fils avec Arte Radio, primée à Phonurgia dans la catégorie fiction.
Qu'est-ce qu'ils nous disent un peu Yogiti sur le sens de la vie, ouais. Voilà, socialiser avec compassion, gentillesse et grâce.
Tour à tour, ils ont soufflé dans nos micros tendus et un peu tremblants leurs secrets d'enfance et leurs secrets radio.
Tous les sourires sont un aboutissement direct.
Bon, non, j'espère. Vous avez des questions type ou...
Quelquefois, les deux.
Vas-y, parle.
Voilà, est-ce que là ça va?
Ça va.
Est-ce que t'es content avec tes niveaux?
Tu veux tester un peu?
Vous n'entendrez pas Sabine et François vous déclamer des monologues en alexandrin comme ils le font sur les planches.
Ils vous expliqueront plutôt comment ils se sont retrouvés nez à nez avec un micro et une histoire à raconter. Avant de vous dévoiler leur secret de faux débutants.
Moi j'ai l'impression que vous êtes bien là, non?
Ouais,
c'est assez haut.
Je suis François Perrache. Physiquement, j'ai un physique de radio. Et je suis notamment auteur radio avec Sabine Zovigian de De guerre en fils.
Je m'appelle Sabine Zovigian, j'ai 29 ans maintenant. Voilà, si je devais me décrire physiquement, je dirais que j'ai les cheveux un peu en pétard, mais attachés, un peu fouillis. J'ai des proportions, je dirais, conformes. Voilà. Type caucasien, type méditerranéen, type humain, type homo sapiens, voilà.
D'abord j'ai une vie antérieure, avant j'étais ingénieur, mais j'ai fait des études scientifiques, donc j'ai fait un diplôme d'ingénieur, j'ai fait mon stage de première année dans un festival de musique.
Travaillé dans la communication publique, un peu par hasard en fait, c'est dans le cadre de mon service militaire.
J'ai commencé un truc qui s'appelle le service d'information du gouvernement.
Matignon, bonjour.
Je suis passé au département multimédia.
Allô.
Je m'occupais du web marketing et de l'analyse d'opinion sur Internet.
Allô.
J'ai travaillé dans la com.
Et puis je suis parti dans le
web. Privé. Et puis j'en ai eu ras le bol.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Ne dérangez pas pour moi, j'ai affaire un peu de rameur.
Ça c'était donc les vies d'avant, mais je dis souvent on n'a qu'une vie, il faut en avoir plusieurs. Mais puis il y a 10 ans j'ai tout arrêté pour me reconvertir dans le théâtre, donc je suis comédien. Et je suis arrivé un peu par hasard à l'écriture. Donc maintenant, je me partage entre comédien.
Par moment, je suis comédienne.
Qui est déjà un métier varié entre le théâtre, la télé, la voix.
Par moment, je suis auteur.
Et puis, je passe l'autre moitié de mon temps à écrire. Notamment pour la radio, essentiellement pour la radio.
Par moment, je suis monteuse. Par moment,
Je suis maman, par moments je suis amie, voilà. Globalement, ce qui réunit toutes mes activités, ce serait le racontage d'histoires au sens global, que je les raconte moi-même, que je les écrive ou que j'aide les autres à les raconter. Ça, j'aime beaucoup aussi, m'emparer de la matière des autres pour les aider à la mettre en forme. Mon premier rapport à la radio, en fait, c'est un rapport à la fiction. C'est mon premier souvenir. Mes parents n'écoutaient pas du tout la radio. C'est pas du tout, ils sont pas, c'est pas des franco-français avec le poste de radio allumé, quoi. C'est pas trop dans notre culture. Mais en revanche, j'avais 2-3 cassettes, de Marlène Jobert, en l'occurrence. Et ça, voilà, c'est mes premiers souvenirs de son.
La vérité, ce serait bien de dire le contraire, mais la vérité est que c'est pas, ça n'a pas été un média évident pour moi. Moi, je pense que j'ai plutôt une culture du livre. Mais évidemment, la lecture, on se fait toujours sa bande-son cérébrale, quoi, dans sa tête. J'avais entendu un gamin dire un truc très, très joli. Il sortait d'une adaptation en film d'un Tintin. Et il disait, le film est super, mais le capitaine Haddock, il parle pas comme dans la BD.
Descends donc, Cro-Magnon, macrocéphale, ectoplasme.
Et pour moi, c'est ça, ce son-là, voilà, c'est un son qui, pour moi, est intérieur, et c'est ce qu'on essaie de retrouver quand on écrit.
Montre-toi donc, diplodocus, babois, mégalomane, flibustieux.
Alors, j'avais une fausse émission radio avec une amie d'enfance. Quelques années plus tard, avant même que je me dise que je ferais de la radio ou que je me formule cette idée-là, on s'était tatoué une onde radio sur le corps toutes les deux, c'était marrant. On faisait ça juste avant d'aller à nos cours de théâtre en fait. Le mercredi après-midi, on s'enfermait, on sortait nos magazines. À l'époque c'était Julie, Minimag, Picsou Magazine, et puis on sortait des articles et on faisait notre fausse émission comme beaucoup d'enfants quoi. Puis on commentait tout ce qui se passait en classe. Voilà, on enregistrait les chroniques de nos vies, quoi.
Sinon, je pourrais dire des choses assez classiques. Je viens d'une famille petite bourgeoise où on écoutait beaucoup la radio, notamment plus inter que culture, d'ailleurs. Mais on n'écoutait pas tant que ça. Mais la vérité, non, je découvre ce média. Et c'est très beau, parce que, tu vois, je n'écoutais pas la radio dans mon lit secrètement, à l'insu de mes parents, comme certains le racontent toute la nuit. Mais c'est très beau de découvrir à mon âge canonique là, de 40 balais.
Et je pense que si j'avais été plus familière de la radio, je me serais posé plus de questions. Mais en fait, comme je connaissais très peu, ben, je l'ai fait, quoi. Je me disais pas, oh là là, attention, je suis en train de faire de la radio, mais qu'est-ce que ça signifie ? C'était un prolongement pour moi d'un travail par rapport à un texte en particulier. Et il se trouve que ça a coïncidé avec un moment où j'étais à la recherche aussi de nouvelles pratiques. Parce que je m'ennuyais un petit peu au théâtre et je crois que ça coïncidait aussi avec un moment. Je pense qu'à 25 ans, à l'époque j'avais 25 ans, et je pense qu'à 25 ans c'est vraiment un âge où on se définit vachement en tant qu'adulte.
Bon, j'y vais, dit Rose en marchant. Personne n'aime vraiment partir. Personne.
Les choses, évidemment, sont ni antinomiques. Je ne sais pas si on peut dire qu'elles sont complémentaires, mais moi, je crois que Là, c'est en tant que comédien, je pourrais dire ça, mais je crois que je suis arrivé au théâtre, moi, par le goût de la littérature, le goût des textes. Et le fait d'être comédien, c'est une manière, comme disent des gens brillants comme Bouquet, de passer du temps avec des grands auteurs.
Les yeux étincelants, entrant à la lueur de nos palais brûlants.
Et plutôt que de vivre dans sa tête, plus intéressant de vivre dans la tête de Shakespeare ou de Giraudoux.
Surtout mes frères morts se faisant un passage. Et de sang tout couvert échauffant le carnage.
Eh bien, est-ce que le corps m'a manqué ? Oui et non. Par exemple, aujourd'hui, quand je réécoute Rose, il y a des passages que je déteste, et je me souviens qu'on les enregistre... Enfin, dans ma voix, c'est normal, je pense que peu de gens aiment écouter leur propre voix, mais les passages qui vraiment me crispent sont des passages où justement j'étais totalement figée derrière mon micro. Justement, je pensais que c'était que de la voix. Et puis, au fur et à mesure des jours d'enregistrement, je me souviens avoir utilisé plus mon corps en même temps que j'enregistrais, et c'est les passages qui, à mon sens, sonnent le mieux. Donc, plus il y a de corps, et mieux c'est, je pense.
Elle escalade la montagne, une chaise dans ses bras. Et tout le temps, autour d'elle, elle est pleine de menaces. Pourquoi pas ? Une chaise, c'est quelque chose. mais pas à qui parler quand il fait trop froid pour être sûre de soi. « Oh, Willy !» dit-elle. Mais il n'y avait pas de Willy, mais il y avait un simple bruit, juste un bruit. Et avec un bruit, il y avait des yeux, et avec les yeux, il y avait une queue, et venant de Rose, il y avait un vœu.
Au théâtre, ce que j'ai toujours aimé, c'est entendre des voix résonner dans l'espace. C'est très évident dans le rap, par exemple. C'est très évident dans les bons textes de rap, c'est très évident dans la tragédie, c'est très évident... ça se passe pas juste dans le sens des mots, ça se passe aussi dans comment ça sonne. Et c'est le va-et-vient entre le son, le sens, le son, qui crée vraiment presque un message, quoi.
D'étranges nénuphars flottent sur la scène. Séquence long métrage, les yeux plongés dans
séquence
la scène.
Séquence long métrage, les yeux plongés dans la scène.
Les gars des eaux pour les gens des humanes eaux. Déshumanisés, les basanés ne font pas de vieux os. D'étranges nénuphars flottent sur la scène.
Flottent sur la scène.
Séquence long métrage, les yeux plongés dans la scène. Un saut de piste dans lequel on noie des rats. Octobre noir, ratonnade sous les boulevards.
Sur l'histoire de quand est-ce qu'on devient auteur, là typiquement, moi j'ai commencé à écrire un peu par commande pour France Culture sur la politique parce que je connaissais, mais aussi De Guerre en Fuite, je l'écris parce que c'est vraiment une banalité, mais il fallait que ce soit écrit. Donc le père de mon père, dont je savais seulement, parce que c'était pas tabou, mais je savais seulement qu'il avait été tué dans un attentat du FLN, par le FLN, algérien donc, pendant la guerre d'Algérie, à la toute fin de la guerre d'Algérie. Je savais aussi vaguement qu'il aurait été compagnon de résistance de l'abbé Pierre pendant la Seconde Guerre mondiale, mais je ne savais pas plus. Donc c'est un truc qui était vraiment indispensable. Ça a mis 10 ans, et c'est en substance, c'est des recherches que j'ai faites il y a 10 ans, quand j'avais 30 ans. Je pense que les caps symboliques étaient importants au niveau psychanalytique, docteur. Mais je venais d'avoir 30 ans et je connaissais rien de l'histoire de mon grand-père paternel. Et tout ça, il y a 10 ans, a donné un petit texte que j'ai fait pour ma famille, d'une centaine de pages.
Mais alors en fait, donc on se connaît depuis des années quand même. On est amis depuis à peu près 10 ans. On s'est rencontrés en école de théâtre il y a 10 ans, donc on avait 10 ans d'écart. C'était l'époque où il faisait cette enquête sur son grand-père. 5 ans plus tard, on était dans une compagnie, dans la même compagnie tous les deux, et il était arrivé avec donc ce récit, des éléments d'archives.
Et on s'est dit, mais l'histoire est quand même assez passionnante. Moi, je me disais, bon, c'est une histoire familiale, qui ça peut intéresser? Elle me dit, si, il faut en faire quelque chose. Et on a essayé d'en faire quelque chose au théâtre. Et avec des copains, on a beaucoup travaillé, enfin, pas mal de séances. Et au théâtre, ça n'a rien donné. Enfin, le théâtre, enfin, les répétitions étaient passionnantes, mais ça n'a rien donné. Ça a dormi pendant X années. Et puis, novembre 2015, avec mon copain, on va bouffer à côté de la rue Bichat. On veut bouffer au petit Cambodge.
Pas tout ça pour dire qu'en matière de pétards, on me la fait pas. Alors ce soir-là, quand mon copain Jean-Christophe m'a dit « ça doit être des pétards », j'ai dit « je crois pas, non ».
Moi, je fais ce constat, que le souvenir m'est revenu par les oreilles. Ouais. Et je pense que voir les choses a dû être absolument horrible. Mais le son des calaches m'a beaucoup obsédé.
Ça doit être des pétards. Je crois pas, non.
Et ce son-là, mon cerveau, alors qu'il n'y a aucune raison, l'a associé à l'image de la mort de mon grand-père. Mais cette histoire de mon grand-père, elle m'est revenue par les oreilles. Et c'est pas étonnant, je pense, que le traitement radio, pour nous, ait été le plus efficace, peut-être plus efficace encore que le théâtre.
En fabriquant des fictions sonores, on était à un carrefour créatif qui me convenait beaucoup, qui était un carrefour dans lequel on était à la fois monteur, auteur, interprète, presque musicien en fait, chef d'orchestre en fait.
Mais je me vois là pour le coup, l'allégorie pour moi elle serait celle d'un sculpteur, ça m'apparaît assez clairement. C'est-à-dire que je mets de la matière et puis j'enlève. Et puis je remets de la matière, et puis j'enlève, et puis je gratte encore un peu, et puis ensuite on polie, on vernit. Le meilleur moyen d'avoir une bonne idée, c'est d'en avoir beaucoup. Donc Sabine m'a fait beaucoup enlever et synthétiser.
Bah comme je disais, moi je suis un peu comme le personnage de Rose, c'est-à-dire je me pose tout le temps un milliard de questions, je me perds dans un tournoiement de questions, en même temps qu'à d'autres moments, je peux être très lucide. Et le fait d'être deux, de travailler à deux... ça me permet de m'extraire de moi et de sortir les choses.
Ça fait, ben, c'est par partie du métier quoi, qui rentre. Parfois, il y a des recettes, comme dans tous les métiers, mais il n'y a que l'expérience. En fait, les recettes ne marchent presque jamais. Une fois que tu les as appliquées une fois, la deuxième fois que tu les utilises, elles ne marchent plus. Quoi.
Donc voilà, à chaque étape, on se disait, voilà ce qu'on veut raconter. À chaque étape, quel est le meilleur dispositif? Et après, la narration se charge de créer du lien. Quoi.
Mais m'écrire moi, non, je pense que j'ai peut-être 2-3 trucs à raconter. Quand on veut parler de soi, il faut quand même avoir des trucs un peu... Hein, et j'ai pas 15 000 trucs qui me semblent intéressants à placer sur la place publique. Quoi. C'est pas la psychanalyse, hein, l'écriture. Enfin, moi, c'est pas comme ça que je vois ça. Quoi.
Mais par exemple, je pense qu'il y a, voilà, y a peu de gens avec qui on peut écrire à quatre mains. C'est-à-dire des gens, on peut accueillir la matière, être toute seule avec, la lui renvoyer, être toute seule, enfin le laisser seule avec. Voilà. C'est là où je dis que c'est rare de trouver des gens avec qui c'est vraiment complémentaire.
Il ne s'agit pas de faire pleurer Margot, quoi. Je l'ai dit parce que c'était vraiment... Enfin, je pense que c'était important de le dire. En tout cas, on constate qu'il y a des centaines de gens qui nous écrivent, quoi. Pour dire soit c'est scandaleux, soit c'est génial, soit merci, moi j'ai envie de parler de mon grand-père. Mais sinon, je n'ai pas vocation à raconter ma vie, hein.
Là, je commence à écrire des choses toute seule. Mais ça ne... Parce que je me dis, tiens, ça serait intéressant quand même de me forcer un peu. Et puis parce qu'il y a des choses que j'ai envie de raconter toute seule.
Mais tout le monde devrait écrire. Et il ne s'agit pas forcément d'en faire des fictions, que ce soit... Il se trouve que moi, c'est mon métier. Donc ça a trouvé une forme qui se trouvait publique. Mais tout le monde devrait chercher les cadavres qu'on a dans les placards, dans les familles.
Vous venez d'entendre Sabine et François sur 37.2, un portrait à deux voix réalisé à deux mains par Clara et Virgile.
Réécoutez-nous sur radiocampusparis.org et sur les réseaux sociaux.
De guerre en fils, François Perrache et Sabine Zovigian.
On s'est basé sur un récit qu'il avait écrit au moment de son enquête. À l'époque, en fait, il avait fait donc cette enquête. Et il avait écrit un récit pour ses proches, juste pour garder une trace. C'est un récit, voilà, qui est plutôt bien écrit, mais c'est un récit assez simple.
Une centaine de pages.
Et voilà, moi, j'y revenais aussi beaucoup pour, voilà, quand j'avais des idées, etc. Voilà, ça servait un peu de feuille de route, quoi.
Et au théâtre, ça n'a rien donné. Enfin, le théâtre, enfin, les répétitions étaient passionnantes, mais ça n'a rien donné. Ça a dormi pendant X années.
C'est quoi comme objet? On s'est beaucoup demandé si c'était une fiction, un documentaire. Le truc, c'est qu'on ne s'est pas du tout posé la question en le faisant. Enfin, vraiment, à aucun moment, on s'est dit « attention, on fait une fiction » ou « attention, on fait un documentaire ». Je dirais que c'est un récit documenté. François est hyper bon en résumé. Il va vous le faire très très bien, ça. Vraiment.
Qu'est-ce que c'est que ce truc? De guerre en fils, c'est vraiment une banalité, mais il fallait que ce soit écrit. Donc c'est un truc qui était vraiment indispensable. Ça a mis 10 ans. Et c'est en substance, c'est des recherches que j'ai faites il y a 10 ans, quand j'avais 30 ans.
C'est un récit documenté dans lequel il est question de l'enquête que mène François pour comprendre pourquoi son grand-père a été assassiné par des membres du FLN en octobre 61 et qui mêle des éléments d'archives.
J'ai rencontré des dizaines de personnes. Enfin,
qui mêle des scènes jouées.
Je suis allé aux archives de la préfecture de police de Paris. J'ai fait une interview de l'abbé Pierre.
Tous les dispositifs nécessaires et toutes les matières nécessaires à raconter cette histoire.
Interviewer mon propre père, ce que j'avais jamais fait.
Qui nous amène au massacre du 17 octobre.
J'ai interviewé des gens du FLN qui sont encore vivants.
Des Algériens ont été jetés par-dessus la Seine.
Donc je savais seulement, parce que c'était pas tabou, mais je savais seulement qu'il avait été tué dans un attentat du FLN. Par le FLN. Algérien, donc. Pendant la guerre d'Algérie, à la toute fin de la guerre d'Algérie.
Il assumait pas trop le fait de prendre la parole pour dire « ceci est mon histoire », enfin de mobiliser plein de gens pour raconter son histoire tout seul, c'était un peu bizarre.
Il était pas question de travailler sur la première personne, quoi. Et j'ai été assez réfractaire, mais on l'a écrit avec Sabine à la première personne. Donc avec cette subjectivité, mais par ce biais très intime et très personnel. Moi, j'ai jamais eu autant de retours de gens extérieurs. Et moi, mon grand-père. Et moi, ma grand-mère. Quand on est sur quelque chose de vraiment très intime et qu'on essaye de le faire avec une certaine pudeur, je pense que les gens s'y reconnaissent vraiment. Je crois.
Et puis bon, on parlait d'être tout seul. Je pense que c'est aussi assez dur d'écrire sur soi, de parler de soi, de s'enregistrer soi. Enfin, c'est un peu dur.
Quand on veut parler de soi, il faut quand même avoir des trucs un peu... Hein. Et j'ai pas 15 000 trucs qui me semblent intéressants à être passés sur la place publique.
Ça, j'ai servi un peu de dramaturge, de psy, de co-auteur. Tout est réel ou inspiré du réel. Par exemple, c'est con, mais on prend le personnage de la psy. Bah, il a vraiment une psy, François. Moi, j'ai une psy. On s'est dit, tiens, voilà, on imite. Même les choses totalement inventées, on les a trouvées... On ne s'est pas posé la question du réel et de la fiction, quoi. C'est pas une question qui s'est posée, encore une fois. C'était vraiment une question de qu'est-ce qui, à tel moment, raconte le mieux.
Alors nous, on n'était pas avec Sabine, on n'était pas aussi ambitieux, ou je ne sais pas quel mot dire, mais justement, avec une politique de petits pas, en se disant, nous, on va prendre un petit sujet, c'est l'histoire de mon grand-père, et on élargit la focale, mais d'abord, on l'élargit pour que les gens comprennent le contexte, quoi.
En fait, c'est encore une fois un peu un truc de gens pas trop initiés.
Mais c'est pas mal de partir de quelque chose d'assez vierge, parce que bah, c'est évidemment le meilleur moyen de faire quelque chose sinon d'innovant, du moins de personnel.
On a mélangé les matières assez facilement aussi, je pense. Déjà, c'est un héritage qu'on a du théâtre, peut-être, aussi. C'est la manière dont on a été formé aussi, de mélanger un peu les genres, les machins.
Ben c'est encore, là, c'est le gros apport, notamment, de Sabine. Mais l'idée, c'était vraiment que cet objet se prêtait particulièrement à un patchwork, un kaléidoscope. Le sujet était lourd, donc il s'agissait surtout de prendre le contre-pied de ça. Mais ça avait du sens pour Deguerre en fils, parce que ce qu'on voulait dans Deguerre en fils, c'est que la forme traduise le fond, à savoir 10 ans de recherche, des sources très variées, françaises, algériennes, sur 3 périodes différentes, une dizaine de protagonistes, des choses complexes, des individus contradictoires.
On a mélangé beaucoup de matières, c'était pas forcément une volonté. C'était comme c'était un sujet quand même assez épineux, parce qu'on parle de la guerre d'Algérie, on parle d'un... C'est quand même une période qui est très controversée dans l'histoire. On s'est dit, bon, bah, pour chaque élément qu'on a à ajouter à la narration, on va choisir le meilleur dispositif, quoi.
Et donc, c'est inconscient pour l'auditeur, mais je le raconte souvent, le premier épisode, sur 6 minutes, il y a 115 plans sonores. Toutes les 6 secondes, ça change. De Guerre en fils, on voulait expliquer que c'était un truc qui était complexe, qui était long, qui avait beaucoup de sources de matière. Et ce qu'on a essayé de faire, c'était à la fois de mettre beaucoup de couches et que ça reste intelligible et ludique.
Voilà, par exemple, Medine, ça a été une résolution. On ne s'est pas dit, tiens, ce serait cool d'avoir un rappeur. Tiens, si on mettait du rap dans la fiction. On ne s'est pas dit ça. On s'est dit, comment intégrer le personnage d'un Algérien ? Rendre présent les Algériens dans la fiction. On s'est dit, si on se met à écrire le personnage de l'Algérien, moitié victime, moitié... C'était délicat, pardon. La question du personnage algérien, c'était un point assez délicat dans la fiction. Et ben Medine, par exemple, son texte 17 octobre, qui raconte finalement l'histoire de ses aïeux à lui. Et voilà, lui aussi, il a à un moment donné cherché à savoir ce qui s'était passé. Donc finalement, le contrepoint, on a été le chercher dans la vraie vie. Et puis la transposition, c'est que c'est tous les deux des auteurs, tous les deux des interprètes. Et après, la narration se charge de créer du lien, quoi. C'est une façon de montrer l'envers du décor, ça permet aussi de... Attends, ça je vais reformuler parce que c'est important. Okay. En montrant les coutures, en fait, ça nous permet d'assumer notre point de vue avec ses limites. Au niveau de nos connaissances, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de... Voilà, donc on a des limites à plein d'endroits qui parfois sont émotionnelles ou voilà. Se mettre en scène en train de faire les choses, c'est une façon de délimiter aussi notre point de vue, quoi. De dire voilà quel est notre point de vue sur cette histoire et... Ça va pas plus loin, on parle d'ici. Déjà, ni lui ni moi ne sommes des historiens, donc y a un côté néophyte que lui-même a dans son enquête qui fait que, comme il est néophyte dans l'enquête, et ben, ça se sent dans l'écriture. Il y a évidemment l'envie que les gens écoutent et ne se lassent pas. C'est une histoire de rythme, c'est aussi donner les clés de compréhension, etc., et ne pas jouer les érudits. De toute façon, on n'était pas érudits, donc voilà.
On a tous des histoires différentes. Je juge rien, évidemment. Je juge ni les militants FLN pour parler, ni les policiers de l'époque pour parler des cas extrêmes, et encore moins l'immense masse des gens qui n'avaient pas d'avis ou un avis flottant, etc., ou qui l'ont vécu de loin. Donc nous, on juge rien. Simplement, moi, j'ai fait mon travail de mise à plat.
Non, puis en fait, moi, dès qu'on me met à l'écart de quelque chose, je m'en vais, je me fais chier. Enfin, je m'en vais. Dès qu'on me met à l'écart, je m'en vais. Dès qu'on me fait sentir con, je m'en vais. Voilà, on a essayé d'être clair et accessible, mais comme on n'avait pas l'impression d'être des érudits non plus et qu'on cherchait en même temps qu'on faisait, on était potentiellement autant à la ramasse que les auditeurs, quoi.
Et souvent, comme dans la vie, quand on ne cherche pas des responsabilités, les sujets deviennent passionnants. Quand on ne cherche plus à savoir si les gens sont gentils ou méchants, mais simplement, qu'ont-ils fait exactement, pourquoi l'ont-ils fait, là, les sujets deviennent intéressants. Et on peut ouvrir un peu le débat. Mais je pense qu'on est la génération qui va pouvoir ouvrir ces chantiers-là.
Quand j'étais petit, j'ai pris très peu de claques. En tout cas, bien moins que ce que j'aurais pu mériter. Je repoussais toujours les limites. Mais derrière mes petites lunettes rondes, j'avais l'art de faire passer toutes mes bêtises pour des expériences scientifiques. J'ai eu une période bombe à eau.
François !
Ensuite, une assez longue période pyromane. Puis une courte mais intense période canular téléphonique.
Allô, c'est la police. On a vu le slip de votre mari sur le bord du trottoir devant l'arrêt de bus. Et il a pété tellement fort que...
Il s'est envolé dans les airs.
Mais ma période la plus créative, et qui engloutissait une bonne partie de mon argent de poche, ça a été la période pétard. Les pétards réunissaient deux de mes passions, le feu et le bruit.
Chut. De guerre en fils. Un feuilleton de François Perrache.
Épisode 1.
J'avais accumulé dans une cachette connue de moi seul au fond du jardin familial un arsenal complet. Mais de toute la gamme, mes préférés, c'étaient les pétards mitraillettes. Un assemblage d'une dizaine de pétards de taille modeste, mais qui étaient reliés entre eux par une mèche unique. Mèche qui assurait, ou pas, là résidait tout le charme, une série d'explosions à rafale. Les pétards mitraillettes donnaient au mot même de pétard toute sa saveur explosive. Avec son P et ses T, dont la prononciation seule mettait en joie. Enfin, tout ça pour dire qu'en matière de pétard, on me la fait pas. Alors ce soir-là, quand mon copain Jean-Christophe m'a dit ça doit être des pétards, j'ai dit je crois pas, non.
Ça doit être des pétards.
Je crois pas, non.
Songe. Songe ces filles à cette nuit cruelle qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle.
On était allé voir un chef-d'œuvre quelconque dans un petit théâtre de Belleville.
Figure-toi Pyrrhus, les yeux étincelants, entrant à la lueur de nos palais brûlants, sur tous mes frères morts se faisant un passage, et de sang tout couvert échauffant le carnage.
La pièce avait commencé tôt, et en sortant, on avait pu se mettre en quête d'un resto dès 21h. Il faisait très doux à Paris ce soir-là. Et naturellement, on s'est dirigé vers le canal. Je peux assez facilement vous décrire l'itinéraire. Depuis Belleville, on descend sur 500 mètres la rue du Faubourg du Temple. Elle mène droit au canal Saint-Martin. On croise sans s'arrêter la rue Saint-Maur, l'avenue Parmentier, la petite rue d'Aix, puis, à droite, la rue Bichat. Donc au bout de la rue Bichat, une patte d'oie. Au carrefour, deux bars-restaurants se font face. À gauche, le Carillon. À droite, une de nos cantines favorites. Les excellents bobounes du petit Cambodge. Il y avait une table pour deux qui était libre en terrasse. C'était inespéré un vendredi soir. Sauf que ce soir-là, parce qu'on avait insisté beaucoup, une copine avait fini par accepter de nous accompagner au théâtre. On était trois, elle, mon copain Jean-Christophe et moi. Et il restait qu'une table pour deux en terrasse du petit Cambodge, ce vendredi 13 novembre 2015 à 21h10. On s'est donc installé quelques mètres plus loin. Au café Clochette.
Assez facilement avec les attaques allemandes dans la rue avec Hans Zimmer, mais aussi via
21h25. Une rafale. Une deuxième.
Une troisième?
Je sais plus. Un hurlement de femme.
Une table qui se renverse.
Puis le silence.
Total.
Ça doit être des pétards.
Je crois pas, non.
Songe au cri des vainqueurs. Songe au cri des mourants.
La suite de la soirée, je la raconterai pas, d'ailleurs vous la connaissez déjà l'histoire. C'est celle de milliers de Parisiens ce soir-là. Une nuit hallucinée entre SMS, Facebook, BFM TV, alcool fort et Xanax.
Songe ses fils à cette nuit cruelle, qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle.
On oublie vite que c'est pas le premier massacre dans Paris et que l'histoire a souvent vu couler le sang sur les trottoirs de la capitale. Mais je digresse. J'ai ouvert la boîte à chagrin et je digresse. Ce que je dois vous raconter, c'est un autre épisode de terreur et de coup de feu. Un épisode qui a plus de 50 ans et dont tout le monde se fout.
On ne construit rien en demandant aux enfants d'expier les fautes de leur père.
Une histoire de la France et de ses colonies.
Ils n'ont pas à se repentir.
Disons les mots qui fâchent. Une histoire de la France avec ses Arabes.
Ah non. Ah non, 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 non.
Ouais, je sais, c'est fatigant. Le 13 novembre et Sarkozy, c'est un peu rude pour un premier épisode. Mais il faut que je la raconte, cette histoire. C'était il y a plus de 50 ans. Et la guerre d'Algérie ne disait pas encore son nom.
Alger capitale, au commencement des 60s. Les pieds noirs quittent le navire, les colons dératisent.
C'était un de ces moments de l'histoire où on persiste à minimiser, à se convaincre qu'il n'y a ni attaque, ni défense, ni résistance, ni combat, mais juste des événements.
1961, période estivale, c'est la guerre d'Algérie et son festival.
Et pourtant les combats faisaient rage sur le territoire algérien. Et presque tous les jours, en métropole, notamment au cœur de Paris, la police française et les militants du Front de Libération Nationale Algérien, enfin bref, les flics et les militants FLN, se tiraient dessus en plein jour, dans la rue, dans le métro, à la sortie des cinémas. À l'automne 61, quand commence notre histoire, les deux camps savent que l'indépendance est inévitable.
Je vous ai compris !
FLN d'un côté, gouvernement français de l'autre, chacun met une pression maximale pour peser dans les ultimes négociations. En quelques semaines, entre août et octobre 1961, plus de 10 policiers parisiens sont abattus par ceux qu'on appelait déjà les terroristes.
Au triste chapitre du terrorisme, il nous faut encore rappeler, Jean Lanzy, un attentat connu depuis ce matin, un attentat FLN qui est la cause d'une vive émotion à Paris.
Cet automne-là, la dernière victime dans cette série d'attentats, le dernier mort dans les rangs de la police, a été tué de 6 balles le 2 octobre 1961. Il s'appelait Georges Perrache. Et c'était mon grand-père.
Un officier de police, Georges Perrache, a été tué ce matin par 3 terroristes nord-africains. Et cela à l'heure même où à la préfecture de police ont célébré les obsèques d'un autre gardien de la paix, victime lui aussi de tueur FLN, Jean Demoin.
Les attentats contre les policiers deviennent en effet presque quotidiens à Paris.
Celui de ce matin s'est déroulé dans un bureau d'assistance technique aux travailleurs nord-africains, rue du Colonel Monteil. 3 musulmans sont entrés et sans dire un mot ont déchargé chacun leur revolver sur 3 hommes qui se trouvaient là. Georges Perrache, donc tué sur le coup, un fonctionnaire, Florent Péquer, et un gardien de la paix, Marcel Fournier, tous 2 grièvement blessés. Leur forfait accompli, les 3 terroristes ont pu prendre la fuite.
J'ai rien vu, ou presque, le 13 novembre 2015. Mais dans les nuits qu'on suivit, je me projetais en boucle un mauvais film. Un mauvais film où l'image et le son n'étaient pas raccord.
Je crois, Jean Lanzy, que c'est la 4e fois qu'un attentat est commis contre des membres des services d'assistance aux travailleurs nord-africains.
Je voyais la mort de mon grand-père en entendant les tirs de Kalachnikov de la rue Bichat. Contrairement à ce que je pensais, j'en avais donc pas fini avec cette histoire familiale.
En effet, il faut signaler que chaque fois la victime est connue pour son dévouement envers les musulmans qui trouvent aide et assistance au sein de cet organisme.
C'est par les oreilles que l'assassinat de mon grand-père m'est revenu en pleine poire.
À suivre.
C'est par les oreilles que je vais la raconter.
Sur arteradio.com.
Inter-actualité.
À Paris ce matin, il nous faut signaler, Jean Lanzy, un nouvel attentat du FLN. Il s'est produit dans le 14e arrondissement et il a causé la mort d'un officier de police.
À 9h donc ce matin, trois terroristes se sont présentés au bureau d'assistance technique aux travailleurs musulmans algériens, qui est situé 8 rue du Colonel Monteil. À peine entrés dans ce bureau, les trois Nord-Africains sortirent leurs revolvers et abattirent M. Perrache, officier de police. Continuant à tirer, les tueurs blessèrent alors un agent du bureau et un autre gardien de la paix. Tous deux ont été transportés dans un état grave à la maison de santé des gardiens de la paix, tandis que les deux agresseurs réussissaient à prendre la fuite.
De guerre en fils. Un feuilleton de François Perrache.
Épisode 2.
Préfecture de police de Paris, ne quittez pas.
Là,
nous allons donner suite à votre appel.
Je crois que je vais avoir le temps de vous faire un petit résumé de l'épisode précédent. Monsieur Perrache, officier de police.
Monsieur Perrache, officier de police.
Celui qui vient de se faire buter par trois Nord-Africains, c'est mon grand-père.
Les trois Nord-Africains sortirent leurs revolvers et abattirent Monsieur Perrache, officier de police.
Ça, c'est un extrait du journal de France Inter. Ça date du jour même de son assassinat, le 2 octobre 1961.
Préfecture de police de Paris, ne quittez pas, nous allons donner suite à votre appel.
C'était l'époque où, concernant la situation algérienne, on ne parlait pas encore de guerre, mais d'événements. En fait, pour moi, tout a commencé, ou plutôt tout a recommencé, la nuit des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Je dînais rue Bichat ce soir-là, et comme mon grand-père 50 ans plus tôt, j'ai bien failli me faire canarder dans les rues de Paris.
M'étant par terre, j'ai l'impression que je veux protéger quelqu'un, mais je crois qu'il n'y a personne.
Mon cheval a très peur, moi j'ai très peur.
Et là, je chute.
On monte dans l'avion décolle, et il explose en vol.
Des tas de gens ont fait des cauchemars cette nuit-là.
Je baisse les yeux et je me rends compte que mon cheval porte une ceinture d'explosifs.
Moi, j'ai rêvé de mon grand-père. Il est sur scène, assis derrière son bureau. On le mitraille. Mm-hmm. J'entends pas de bruit, mais je vois qu'on le mitraille. Mm-hmm. Et il tombe à la renverse, au milieu de tous ces papiers qui volent. Mm-hmm.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Un grand-père auquel je pensais presque plus, qui était mort 15 ans avant ma naissance. Je me suis réveillé le lendemain avec la gueule de bois. Ouais, la gueule de bois et une forte envie de reprendre l'enquête. Une enquête que j'avais laissée en plan depuis 10 ans.
Préfecture de police de Paris, ne quittez pas.
Il y a 10 ans donc, en 2006, j'ai voulu enquêter sur les circonstances de l'assassinat de mon grand-père paternel.
Nous allons donner suite à votre appel.
Je savais presque rien de lui. Personne n'en parlait. Ni ma famille, ni les autorités. Automne 1961. Une très sale période pour la police parisienne.
Préfecture de police de Paris, je vous déconseille de vous aventurer sur ce terrain-là.
En fait, je savais pas ce que je cherchais. Je pensais rien trouver, ou presque. J'imaginais vraiment pas que ça m'occuperait à quasi plein temps pendant 18 mois. Donc, là, au début de ce deuxième épisode, on est remonté 10 ans en arrière. On est en 2006, au moment où j'ai commencé mon enquête, comme on commence toute chose, par la fin. Puisque mon grand-père était mort en service, j'ai envoyé un simple mail à la préfecture. Madame, monsieur, je me permets... Sans savoir que des mails comme ça...
Que vous...
J'en enverrai des dizaines par la suite.
Madame, monsieur,
dans le cadre de recherche.
Monsieur, je me permets de vous contacter dans le cadre de recherche. Je me permets de vous contacter dans le cadre de recherche.
J'effectue actuellement autour de la mort de mon grand-père, Georges Perrache.
Officier de police à la préfecture de Paris.
Tué lors d'un attentat du FLN algérien à l'automne 1961.
Le soir même, j'avais une réponse du service des archives qui m'indiquait que je pouvais les appeler quand je voulais. C'est ce que j'ai fait le lendemain matin.
Préfecture de police de Paris, ne quittez pas.
Et c'est là que les ennuis ont commencé.
Nous recherchons votre correspondant.
Alors, allô, monsieur Perrache, oui, c'est monsieur Perrache, excusez-moi, on a du mal à voir la ligne.
Lui, c'est l'archiviste de la préfecture de police.
Oui, c'est Rémi Bip.
Rémi Bip a été le premier à m'ouvrir une porte pour mes recherches. Enfin, vous aurez compris que c'est pas vraiment lui qui parle. Les fonctionnaires ont un devoir de réserve.
C'est incroyable, incroyable, c'est hyper intéressant.
Là, c'est Jacques Bonafé.
C'est bien, là.
Il est comédien.
Ça, c'est mieux, l'accent.
Ouais, c'est super, Jacques. Mais juste, tu peux quand même essayer l'accent ch'ti pour voir.
Ah, ch'ti. Tu préfères l'accent du Nord? Je veux dire, un peu fatigué. C'est mieux. Que les gens qui sont trop en forme, il faut qu'ils aillent sur Europe 1.
Vous notez l'adresse. On est au 4, hein, c'est 2 fois 2. 4 rue de la Montagne, Sainte-Geneviève, dans le 5e arrondissement de Paris. Vous venez directement à mon bureau et vous avez qu'à demander Rémi, de toute façon, c'est moi, là. Voilà. Bon, à tout de suite, monsieur Perrache.
Et c'est comme ça qu'un beau vendredi après-midi de RTT, je me suis retrouvé au service des archives de la préfecture de police de Paris.
J'ai l'honneur de vous faire connaître que, par dérogation aux dispositions de la loi du 3 janvier 1979 sur la protection des archives, les dossiers suivants peuvent être consultés. Le dossier de victime du devoir de M. Georges Perrache, le dossier d'enquête de la brigade des agressions et violences, référencé dans le carton HD1.
Donc, ça, c'est la photocopie complète du rapport d'enquête de police judiciaire qui a été faite à la suite de la mort de votre grand-père. La photocopie, c'est pour vous. C'est cadeau.
C'est pour vous. C'est cadeau.
La page de garde est marquée d'un tampon assassinat, en rouge, sur l'original.
Bon, j'ai vérifié, comme on n'a pas retrouvé les assassins de votre grand-père à l'époque, moi, je suis bien habilité à vous communiquer le dossier.
Les assassins de mon grand-père sont peut-être encore en vie, et même probablement en vie. Ils avaient quoi, 20 ans à l'époque ?
Ce rapport-là, c'est confidentiel, hein ? C'est sûr. C'est pour un usage strictement privé. Vous n'en parlez à personne, hein ? Vous le montrez à personne.
Non, évidemment, évidemment.
Bon, c'est génial. Vous savez, quand on m'a transmis votre courriel, j'en revenais pas, hein ? Le petit-fils de Georges Perrache, mais c'est génial, hein ? Non, mais pour vous dire, je le connais parfaitement, ce dossier, parce que c'est moi qui ai classé toutes les archives de la préfecture pour la période Papon.
Maurice Papon... C'était la première fois qu'il apparaissait dans cette histoire.
Maurice Papon.
L'homme de Vichy. Responsable bordelais des rafles d'enfants juifs. Avec une belle carrière préfectorale et une paisible retraite avant d'être condamné pour complicité de crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, le nom de flic le plus haï de l'histoire de France. Il était préfet de Paris à l'automne 61. Mon grand-père travaillait donc sous ses ordres au moment de sa mort.
Bon, alors, vous nous affolez pas, monsieur Perrache, je vous explique un peu les acronymes, les sigles, si vous préférez. Que vous compreniez bien, que vous puissiez vous repérer un peu. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a des choses pas claires ?
Déjà, l'entête, c'est quoi, là, la bave ?
Faux.
Ah.
Répète après moi.
Alors, on dit plutôt la BAV, hein, Brigade des Agressions et des Violences. C'est le service qui enquêtait quand un policier était tué. Là, ils avaient du boulot à l'époque. Et là, l'autre sigle que vous lirez partout dans le rapport, c'est SAT-FM1.
Répète après moi.
SAT-FM1. Ça veut dire Service d'assistance technique aux Français musulmans d'Algérie.
Français musulmans d'Algérie.
C'est le service où travaillait votre grand-père.
En quoi ça pouvait bien consister, son boulot ? Comme ça, Service d'assistance technique, ça pourrait sonner comme une entreprise philanthropique ?
Faux.
Hein ?
Essaye encore.
Non ?
Le SAT-FM1, c'est là où votre grand-père est abattu.
O-P-A-D-C-D.
Et ces lettres-là, ça veut dire quoi ?
OPA, c'est le grade de votre grand-père. Il a été officier de police adjoint. Et décédé, bah, ça veut dire qu'il est décédé. C'est le code radio de la police quand il y a un mort. Delta, Charlie, Delta. Bon, je vous laisse 2 minutes, je vais vous photocopier le dossier de protocole des obsèques. Je reviens tout de suite, hein, monsieur Perrache. Le petit-fils de Georges Perrache. Mais c'est génial, hein ? Vous rendez pas compte, vous ? Vous savez, assassiné à peine quelques jours... avant le massacre du 17, hein. C'est génial. Je reviens tout de suite, monsieur Perrache. Ah, c'est génial.
Je suis resté seul, avec les 120 pages du rapport d'enquête devant moi. De quoi j'avais peur, au juste ?
Lundi 2 octobre 1961. Nous, Jean Mailleux, commissaire principal du quartier de Plaisance, sommes informés que ce jour à 8h50, un attentat vient d'être commis au siège d'assistance technique aux Français musulmans du 6e secteur. Nous demandons à l'OPA Castin de procéder à toutes recherches utiles dans le but de découvrir des traces papillaires.
Il est sur scène, assis derrière son bureau.
Dans la salle de réception du public et le bureau occupé par l'OPA Perrache, nous notons les 6 points d'impact suivants. Premier impact.
On le mitraille. J'entends pas de bruit, mais je vois qu'on le mitraille.
Deuxième impact.
Nous chargeons le commissaire adjoint Delpech de procéder aux constatations sur le corps de l'OPA Perrache et sur les vêtements des victimes.
Troisième impact.
Nous relevons sur le corps les blessures suivantes.
une plaie circulaire située sur la tempe gauche, une plaie circulaire située sur la tempe droite, semblant être l'orifice d'entrée ou de sortie d'une balle.
Nous découvrons sur le sol, au pied de l'appareil de chauffage, une paire de lunettes de soleil dont une des branches a été arrachée et tordue.
Et il tombe à la renverse. Au milieu de tous ces papiers qui volent.
Cette paire de lunettes est couverte de sang.
C'est un des seuls documents que j'ai jamais transmis à mon père. Je l'ai lu, souvent, avidement, compulsivement, et plus je l'ai lu, plus j'ai compris que cette litanie des blessures, avec leur emplacement, leur diamètre, les dégâts occasionnés, cette litanie ne racontait rien. Rien sur mon grand-père, rien sur sa vie, et presque rien sur sa mort. Il y en avait encore des pages et des pages pour la seule journée des constatations du 2 octobre. Visiblement, l'affaire dépassait un peu le petit commissaire local.
Tu sais ce qu'il te dit, le petit commissaire ? Démerdez-vous !
Voilà, désolé, j'étais un peu long, il y avait la queue, la photocopieuse. Ça, c'est la copie du dossier du protocole des obsèques de votre grand-père. On est d'accord ?
C'est pour vous.
C'est pour vous.
C'est cadeau.
Ça va, monsieur Perrache ? Alors, vous avez l'air toucheuse, là.
Non, c'est juste, ils ont mis deux R à Perrache, il y a un seul R.
Ah bon ? On va corriger ça.
J'ai quitté la préfecture. J'ai marché le long de la Seine. J'ai acheté tous les livres disponibles en rapport avec la guerre d'Algérie que l'archiviste m'avait conseillé. Et j'ai appelé mon père.
Allô, monsieur Perrache ?
Oui, bonjour, monsieur Perrache.
Comment va, monsieur Perrache ?
Et vous ?
Eh bien, moi, ça va. Je suis avec Anne-Marie. On est à Pinsac.
Bon. Merveilleux.
Et voilà.
Merveilleux.
Merveilleux. Tranquillou. Voilà.
Bah écoute, super.
Quelle nouvelle pour toi ?
À l'extérieur, le soir commençait à tomber. La séance de cinéma à laquelle j'avais prévu d'assister était finie depuis belle lurette. J'ai pas fait de cauchemar cette nuit-là. Et pour cause, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Mais pourquoi ils l'ont buté ?
Pourquoi ils l'ont buté ?
Pourquoi l'archiviste trouve cette histoire si géniale ?
Peut-être pas mort par hasard, comme on l'a
toujours. Ça consistait son travail. C'était quoi ce lien dont il a parlé, là, entre sa mort et le massacre du 17 octobre et...
Qu'est-ce que je vais déterrer, merde.
Puis quel massacre d'abord ? Putain, qu'est-ce que Maurice Papon vient foutre là-dedans ?
Merde.
La police municipale procède actuellement à des patrouilles aux fins d'interpellation de suspects éventuels.
Étant toujours au siège du SAT-FMA, nous chargeons immédiatement M. Roussel et les officiers de son groupe de procéder à une minutieuse enquête de voisinage, à l'effet de retrouver et d'identifier tout témoin utile à la présente enquête. Étant toujours sur place, on nous précise que 11 FMA ont été interpellés par les services de police municipale. Il s'agit des nommés Randan, Mohamed, Mouloud.
Mohamed, Mouloud, Akli, Amran, Mamar, Rabat, Kadour, Mohamed.
À suivre sur arteradio.com.
Et ton truc pour Arte, il serait pour quand ?
Elle, c'est l'or.
On aimerait qu'il soit prêt et diffusable en octobre.
L'aînée de mes trois sœurs.
D'accord.
Est-ce que ce sera l'occasion de... Parce que c'est autour notamment... notre grand-père, il est mort début octobre de 61.
Oui.
Et en fait, c'est en prélude à un événement qui avait lieu le 17 octobre 1961.
Ouais. C'est les morts qui sont passés vers le truc, là. Donc
c'est ça, il y a plus de 200...
C'est les 17 mecs qui sont passés sur le canal Saint-Martin.
Il y a quelques années, j'étais un peu comme elle. J'ignorais tout, ou presque, de notre grand-père. Et du contexte historique et politique qui entourait son assassinat.
Ah, pas 17, non, il y en avait plus de 200.
Ah oui, d'accord.
Qui ont été massacrés par les policiers 200, dans la cour de la préfecture. 200. Oui, au moins, ouais.
Ah ouais.
Je savais pas encore que sa mort avait été, sinon l'élément déclencheur, du moins un catalyseur de ce massacre.
Ah ouais.
Je m'épargnais par là même un certain masochisme.
De guerre en fils. Un feuilleton de François Perrache.
Épisode 5.
Seuls les policiers tortionnaires sont châtiés.
Certaines phrases vous sautent à la gueule et vous attrapent à la gorge comme un chat enragé.
Torsionnaire, du latin médiéval torsionarius, de tortio, torture.
Torsionnaire.
Personne qui torture pour arracher des aveux,
châtier.
Ou par pur sadisme.
Seuls les policiers tortionnaires sont châtiés.
Ces mots étaient tout droit sortis d'un rapport interne envoyé par le responsable FLN de Paris au comité fédéral. C'est eux qui dirigeaient l'organisation, dans la clandestinité depuis Berlin. Dans un communiqué publié le jour même de la manifestation du 17, le FLN parisien justifiait le choix des policiers et des services visés.
Il faut être naïf pour croire que les SAT FMA aient été institués pour aider les Algériens.
Il citait en particulier le SAT FMA où travaillait mon grand-père.
Quant à l'officier de police Perrache, cinquième fonctionnaire du SAT, exécuté par nos commandos, nous devons informer l'opinion qu'il s'occupait davantage de renseigner la police sur les activités du FLN que de trouver du travail à nos compatriotes. Plusieurs mises en garde avaient été adressées à Georges Perrache. En vain.
À la question de savoir si mon grand-père pouvait avoir été abattu par hasard,
on ne peut a priori exclure que l'OPA Perrache pouvait être seul visé.
La réponse semblait être non.
Et que ses collègues n'ont été abattus que pour supprimer des témoins gênants.
C'est ce qu'en disait le rapport d'enquête de police.
On peut également penser que le FLN, en réussissant un coup de main contre un centre SAT, sans distinction de personnalité, a voulu provoquer aussi bien auprès des FMA que des Français métropolitains le choc psychologique recherché depuis le début de la rébellion.
On peut également le penser.
Moi, je ne sais plus quoi penser de Georges Perrache.
Il m'est arrivé de scruter les trois photos en papier jauni que j'ai de lui, jusqu'à avoir l'impression qu'elles s'animent.
Trois photos, pas une de plus.
Pour essayer de me faire une idée de mon grand-père.
Là, c'est lui en Guinée. Il est en short, il lit son journal en fumant la pipe. C'est tout ce qui me reste, cette photo-là, de 5 cm sur 8. C'est tout ce qui me reste de son séjour de plusieurs années passées en Afrique. Mon grand-père y était parti juste après son divorce, vers 1950. Il a occupé plusieurs postes dans l'administration coloniale. Il avait laissé mon père en France, où il sera élevé par sa grand-mère.
Oui, allô?
Ouais, François, c'est Sabine, ça va?
Ouais, ça va.
Dis-moi, on est avec Sam, là, on bosse sur l'épisode 5, et on en est au moment où tu dis Georges a occupé plusieurs postes dans l'administration coloniale.
Ouais.
On disait que tu pourrais peut-être un peu développer, enfin c'est un peu obscur. Tu sais un peu ce qu'il fabriquait en Afrique?
En fait, ce que je sais, si tu veux, c'est que c'est en 1958, il s'est retrouvé comptable du port de Conakry. Il n'avait rien à y faire.
Okay.
Et 58, c'est précisément l'année d'indépendance de la Guinée. Donc le plus probable, c'est ce que me disaient les historiens, c'est qu'il devait être l'équivalent, tu vois, d'un ce qu'on appelait un correspondant du SDEC, qui était l'ancêtre de la DGS, une espèce de barbouzard africain, quoi, si tu veux. Voilà. Et après, il va rentrer okay. en 60 pour partir bosser à la préfecture de Paris.
Ok, bon, on va essayer de caler ça quelque part.
Georges rentrait parfois à Grenoble pour voir son fils, mon père. Et du souvenir de ses rares séjours, je n'ai pu obtenir que trois anecdotes. Pas une de plus.
Pas une de plus.
1956. Mon père, Jean-Pierre, accompagne son père Georges à la gare. Sur le parvis, un automobiliste est en panne. Mon grand-père l'aide en poussant sa voiture. Qui finit par redémarrer. Mon père est très fier. Georges est très fier aussi.
Vous voyez, vous ne pourrez pas dire qu'on n'est pas sympa dans la police.
1959. Mon grand-père est en train de se raser. Mon père, qui a une dizaine d'années à l'époque, en profite pour attraper l'arme de service de son père. Il joue à se mettre par défi le canon du pistolet sur la tempe. Pensant l'arme déchargée, mon père arme le chien du Manurin 9 mm et vise cette fois le plancher plutôt que sa tempe.
Jean-Pierre !
1960. Dans le métro parisien, un probable militant FLN montre à mon grand-père un morceau de tissu aux couleurs du drapeau national algérien. Morceau de tissu qu'il tient au creux de sa main.
Algérie.
en vert et blanc, étoilé croissant.
Mon grand-père aurait alors écarté le pan de sa veste pour laisser voir son arme de service, en lui disant
« Vous avez de la chance. Vous vous mouchez dans de la soie. »
Trois anecdotes, pas toutes glorieuses, et trois photos en tout, pour éclairer une vie entière. Rien qui ne mette en lumière les raisons précises de son assassinat. Il restait une personne qui pouvait m'apporter sa part de vérité sur cette période et sur un éventuel souvenir du cas de Georges Perrache. Son chef.
Maurice Papon.
C'était il y a 10 ans. Et Maurice Papon, 95 ans, condamné en 1998 à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l'humanité, puis libéré pour état de santé en 2002, finissait ses jours dans la petite ville de Seine-et-Marne où il était né. Assigné à résidence, dans un modeste pavillon de la rue Arthur Papon, du nom de son père, maire de la commune avant lui. C'est un jeu d'enfant de joindre l'avocat de Maurice Papon. Il faut juste un téléphone.
Cabinet de maître... Bonjour.
Oui, bonjour madame. Je souhaiterais parler à maître... C'est pour une demande personnelle, merci. L'assistante doit penser que je suis un client fortuné en instance de divorce. Et elle transmet mon appel à l'avocat sans poser de questions. L'avocat est aimable. Il me demande de préciser l'objet de ma demande. Je victimise un peu. Je lui explique en deux phrases être le petit-fils d'un policier tué dans un attentat FLN en octobre 61, que mon grand-père a été décoré lors de ses obsèques par Maurice Papon, et que j'aimerais savoir si l'ex-préfet a le moins de souvenirs de cet événement. L'avocat est aimable. Il accepte de transmettre un courrier de ma part à l'ancien préfet. L'avocat est très aimable. Avant de raccrocher, il a ces mots.
Monsieur Papon, si son état de santé le lui permet, vous répondra sans doute avec plaisir, dans la mesure où son passage à la préfecture de police de Paris a été une des périodes les plus heureuses de sa vie.
Mon courrier restera sans réponse.
Un dernier mot, monsieur Papon. Face à l'histoire, face à vous-même, le matin ou le soir, dans votre miroir, vous êtes content de vous.
On n'est jamais content de soi parce qu'on n'a jamais fini de faire son devoir sur cette terre telle qu'elle est et avec les hommes tels qu'ils sont. Mais si j'avais à refaire ce que j'ai fait, je le referais.
Maurice Papon mourra quelques mois plus tard et sera enterré dans le cimetière de Gretz-Armainvilliers avec sa Légion d'honneur qui lui avait pourtant été retirée suite à sa condamnation. Dans les relations père-fils, la haine et l'amour coexistent souvent. Et vis-à-vis de sa patrie, le rapport peut être tout aussi ambigu. Parce que l'amour de la patrie peut nous pousser au meilleur comme au pire. Avant la période Papon, il y avait une phase brillante à la vie de mon grand-père. La légende familiale voulait que Georges Perrache ait appartenu pendant la Seconde Guerre mondiale à un important réseau de résistants, lorsqu'il vivait à Grenoble. Il était alors en lien avec un certain Henri Grouès, qui assurait en moto la liaison avec les maquis en montagne.
Allô ?
Oui, bonjour, c'est à nouveau François Perrache à l'appareil.
Oui ?
Je retentais ma chance pour essayer de parler à l'abbé au sujet de mon grand-père. Henri Grouès, entre-temps, était devenu l'abbé Pierre.
Oui, rappelez-moi le nom de votre grand-père.
Georges Perrache.
Ah, c'est ça. Ne quittez pas. Hein.
Merci beaucoup. C'était il y a 10 ans.
Allô.
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour.
Mon nom est François Perrache.
Oui.
Et je suis le petit-fils d'un monsieur qui s'appelait Georges Perrache.
Et qu'on appelait la plume.
J'ai toujours cru que c'était une légende.
Non, c'est bien vrai.
je n'ai pas eu avec lui à travailler, j'allais dire quotidiennement. Il est devenu un des piliers autour duquel se réalisaient beaucoup d'actions dans lesquelles il était compétent quand il s'agissait de faire de faux papiers, passeports ou cartes d'identité dont les modèles vierges originels étaient dérobés par des fonctionnaires amis résistants dans la préfecture ou dans certains commissariats de police. Donc le rôle de celui que nous appelions la plume entre nous, parce que je crois, mais j'en suis pas très sûr. Mais autant que
il m'a parlé pendant près de 20 minutes. De la boutique près de la cathédrale de Grenoble, où Georges vendait du matériel de bureau, et où il fabriquait clandestinement de faux papiers. De la façon dont les choses s'organisaient autour de lui. La mémoire d'Henri Grouès était intacte et d'une vivacité étonnante. Elle apportait un peu de lumière dans mon enquête. À un moment où, je dois l'avouer, le moral en avait pris un coup. Mais plus j'avançais, plus le portrait de mon grand-père, au lieu de se préciser, se troublait. Homme à abattre pour les indépendantistes algériens, et pourtant lui-même résistant à une autre époque. Héros et salaud. On était comme prisonniers d'un labyrinthe. Maurice Papon, l'abbé Pierre, mon grand-père et moi.
Un labyrinthe.
Je savais plus comment en sortir. Il me fallait quelqu'un qui puisse me donner une clé de lecture de ce parcours paradoxal.
Une clé?
Ouais, j'aurais pu en parler à ma psy, mais j'ai préféré appeler Sylvie.
Oui?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est François Perrache à l'appareil.
Je passe un peu ma vie au téléphone en ce moment.
Oui? Oui, bonjour, ça va?
Oui, très bien.
Sur le coup, je me suis dit, qui c'est? Mais oui, mais je me souviens de toi, bien sûr. Ça va?
Bah, très bien. Et toi?
Bah ouais, ça va. Qu'est-ce que tu deviens?
Oh bah justement, tu devines que si je t'appelle, c'est que j'ai besoin de toi.
C'est Sylvie qui m'a permis de remonter le fil d'Ariane. Sylvie Thénault, professeure d'histoire contemporaine, chercheuse au CNRS, spécialiste de la guerre d'Algérie.
Voilà, alors raconte-moi un peu.
Ouais, bah non, mais faudrait que je te rappelle un autre moment où je te dérange pas trop, mais l'idée, je te la fais courte.
Et un peu comme la première fois où je l'ai rencontré, un peu comme un étudiant d'histoire en première année, je me suis perdu en circonvolution.
Donc, oui, et l'idée, c'est plutôt de... C'est pas de faire l'historienne experte qui raconte l'histoire, c'est plutôt de dire... comment moi, je suis intervenue là-dedans, comment on est entré en contact, comment, comme historienne, je me situe par rapport à ça, c'est ça l'idée?
Alors ça peut être parfait, c'est-à-dire qu'après, on verra, mais je pense qu'il y aura peut-être peut-être qu'on fera une petite mise en scène, tu vois, genre on s'enregistrerait, on se rencontre, on se fait la bise pour voir qu'on se connaît, et que l'idée, je pense, on est en train de l'écrire, ce serait de te faire intervenir avec moi, peut-être au tout dernier épisode, pour justement un peu boucler tout ça.
D'accord.
À suivre.
Boucler l'histoire avec une historienne, c'était plutôt une bonne idée.
Sur arteradio.com.
Sauf qu'elle n'arrête jamais de s'écrire, l'histoire.
Les opposants à la loi travail vont-ils pouvoir manifester jeudi à Paris? L'incertitude plane toujours à 48 heures de l'échéance. Hier, le préfet de police a rejeté le parcours proposé par les syndicats et brandit une menace. Soit ils acceptent un rassemblement statique, place de la Nation, soit le défilé sera purement et simplement interdit. Les autorités mettent en avant le risque de nouveaux débordements. Les syndicats dénoncent une remise en cause du droit de manifester.
L'histoire ne se répète pas.
C'était il y a un peu plus d'une semaine, un couple de policiers tués au couteau chez eux à Magnanville dans les Yvelines. Hier, trois proches du tueur, Larossi Abala, ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir repéré des policiers dans plusieurs communes des Yvelines. Un double assassinat qui avait été revendiqué par le groupe État islamique.
L'histoire ne se répète pas, mais il arrive qu'elle bégaye.
Il faudra désormais l'appeler Quai Jacques Chirac. 10 ans après son ouverture, le musée des arts d'Afrique, d'Océanie et des Amériques est officiellement rebaptisé aujourd'hui.
De guerre en fils.
Un feuilleton de François Perrache.
Épisode 6.
Quelle nouvelle pour toi?
Quelle nouvelle pour moi? Ça va, c'est la fin de l'année, bien chargée. Mais ouais, j'ai bien l'occasion de penser à toi ces jours-ci, là, parce que tu sais, je suis en train de finir mon feuilleton à la radio, là, sur ton père.
Ouais.
Donc voilà, je pense à toi un peu tous les jours. Mais
c'est bien.
Ouais.
Mais quand tu dis un feuilleton sur mon père, c'est sur la période. Il y a mon père dedans, mais il ne va pas se consacrer à mon père, si ?
Bah, tu verras.
Ah, je verrai.
Ça en parle, si, ça en parle beaucoup, si, bien sûr.
Ah ouais, d'accord.
C'est le dernier épisode.
Ah oui, d'accord, bien sûr.
Et au moment de conclure mon enquête, je me revois 10 ans plus tôt, quand je croyais en avoir fini avec ce travail de mémoire. C'est ce que j'ai cru longtemps. Je l'ai cru jusqu'au 13 novembre 2015. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, je me retrouve avec la même difficulté. Comment mettre un point final à cette histoire ?
Le plus dur dans une guerre, c'est de la terminer. Que la paix soit une valeur entérinée. Les vieux ennemis nourrissent une rancœur pour l'éternité. Si l'Algérie s'enrhume, c'est que la France a éternué. C'est que la France a éternué. Alors on dialogue en se raclant la gorge, en se rappelant les morts avec le tranchant du bord. On marque le score à chaque nouvel écorche. On compte les corps à chaque nouvel effort. Du martyr au harki, du colon jusqu'au natif. Qui se bâtir pour sa patrie et qui pour ses actifs? Du pied noir au maquisard, on est tous en mal d'histoire.
Salut. Ça va?
François, ouais. Ça va?
Tu vas bien et toi?
Ouais. Très bien.
T'as trouvé sans problème?
Sans problème.
Malgré les grèves?
Ouais, Sylvie Thénault est historienne. Sur le métro, mais c'est une grande spécialiste de la guerre d'Algérie. Ouais, en studio, elle m'a accompagnée depuis le début dans mes recherches.
Je vous suis.
Allez, c'est parti.
La radio, elle connaît. Elle est assez sollicitée par les médias ces derniers temps, à cause de l'actualité. On interroge souvent sur la notion d'état d'urgence. Parce qu'elle a étudié de près ce régime d'exception, qui a été créé en 1955, en pleine guerre d'Algérie, suite à une vague d'attentats du FLN. Au moment de finir mon enquête, c'est naturellement elle que j'ai appelée pour m'aider à faire le point.
Tu deviens quoi ?
Je deviens quoi ?
Ouais.
Je continue ma petite vie de comédien.
D'accord.
Et puis, donc il y a cette histoire là qui m'est remontée. Qui m'est remontée à nez avec les attentats, quoi.
Ouais.
Les 13. Donc ça me lâche pas, tu vois. Ça fait 10 ans et ça me lâche pas.
Ok, François, ça tourne.
Sur cette histoire de mon grand-père, j'arrive pas à faire le lien, en fait. Donc, ouais, j'arrive pas à faire le lien entre le héros et le salaud, quoi.
En fait, dans un parcours de vie, il y a des morceaux dans lesquels on peut essayer de mettre de la cohérence a posteriori, mais c'est pas forcément évident que la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale allait conduire à des positions anticolonialistes pendant la guerre d'Algérie. Mais les résistants au moment de la guerre d'Algérie, ils adoptent des positions extrêmement diverses. Si on prend Salan ou Massu, c'était des grands résistants. Et pourtant, ils ont défendu l'Algérie française jusqu'au bout. Salan allant jusqu'à fonder et diriger l'OAS. Et eux, le fil conducteur, c'est le nationalisme. Et donc, quand on a résisté au nom de la grandeur de la France, au moment de la guerre d'Algérie, on peut se retrouver du mauvais côté du manche. Mais ça, c'est nous qui pouvons le dire. Il ne faut pas céder à ce que les chercheurs appellent l'illusion biographique, qui consiste précisément à essayer de reconstruire des parcours en fonction de, finalement, de jugements de valeur que nous pouvons porter aujourd'hui. Les acteurs en situation peuvent se sentir démunis pour savoir quelle est la bonne cause, et puis la bonne cause pour eux. Et puis, il ne faut pas négliger non plus dans les parcours de vie des données tout à fait prosaïques, du type « il faut gagner sa vie », sans que ce soit forcément politique. On peut être un policier qui fait son travail et pas être non plus convaincu de la nécessité de l'Algérie française, mais on fait son travail et on gagne sa vie.
Une des inquiétudes que j'ai eues, là, c'était de comprendre ce que faisait mon grand-père exactement. Là, j'ai bien compris comment il avait été tué, mais j'ai pas le pourquoi, vraiment. Enfin, en gros, mon grand-père, est-ce qu'il est mort par hasard, quoi ? C'est ça ma vraie angoisse.
Non, je pense pas qu'il soit mort par hasard. Vraiment pas. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que sur le territoire français, il y a une guerre, d'abord. Ça, on l'oublie souvent. On a l'image de la guerre d'Algérie, c'est les parachutistes à Alger où ils crapahutent dans le bled. Mais il y a aussi une guerre sur le sol français qui est d'une nature vraiment très particulière parce qu'il y a du terrorisme FLN. Mais la principale mission de la Fédération de France du FLN, c'est d'organiser l'immigration algérienne, de la mobiliser pour la cause de l'indépendance. Donc le FLN en France, c'est une organisation clandestine qui, en gros, essaye de se fondre dans la masse. Et du coup, du point de vue policier français, pour lutter contre le FLN, il faut pénétrer l'immigration algérienne. Ça veut dire qu'il faut identifier les gens, faut les ficher et il faut aussi les connaître de visu. Et une des missions du SAT-FMA, c'est d'assurer, d'être une sorte de guichet administratif où tous les Algériens vont venir faire leurs démarches. Mais du coup, quand ils viennent faire leurs démarches, on les identifie, on les connaît. Globalement, l'idée du SAT-FMA, c'est de faire un travail administratif qui va servir le travail policier d'identification des militants et des cadres de la Fédération de France du FLN. Ce qui n'exclut pas, par ailleurs, une part de violence avec des interrogatoires qui peuvent être violents dans certains cas.
Mais c'est ce que j'allais te demander aussi, qui est très délicate pour moi. C'est que dans le cas de mon grand-père, il y a une phrase qui est revenue, c'est « seuls les policiers tortionnaires sont châtiés ».
Ouais.
En citant tout le monde, dont mon grand-père.
Ouais. L'historienne prudente, en l'absence de preuves, se gardera bien de trancher sur la question de savoir si ton grand-père éventuellement peut être considéré comme un tortionnaire. Mais c'est évident que les lieux d'encadrement et de services administratifs sont aussi des lieux d'interrogatoire, donc potentiellement. Il peut y avoir effectivement pratique de violence. C'est de l'ordre du plausible absolu.
C'est de l'ordre du plausible absolu. Plausible. J'ai voulu en avoir le cœur net. J'ai traqué ceux qui avaient décidé et organisé l'assassinat de mon grand-père. 50 ans après les faits, j'ai finalement réussi à remettre la main sur l'assistante du chef du FLN parisien à l'époque. Autant dire qu'elle n'avait pas une envie folle de parler avec un petit-fils de flic.
Bon.
Mais elle a quand même fini par accepter de dîner avec moi.
Bon.
Ça a été un beau dîner.
Bon.
Mais évidemment...
Bon.
Elle a prétendu n'avoir aucun souvenir du cas de mon grand-père.
Non, je...
Bon. Alors j'ai posé la question directement à son patron, Ali Haroun. Ali Haroun était un des 5 membres du comité fédéral du FLN. C'est l'instance suprême de direction du mouvement qui était installée clandestinement à Berlin. Dans son livre « La 7e Wilaya », qui est connu pour donner des informations sur l'organisation du FLN à l'époque, il fait mention du cas de mon grand-père. « Je me permets de contacter dans le cadre de recherche personnelle que j'effectue... » Et il m'a répondu dans une longue lettre, pleine de détails, mais où il disait n'avoir aucun souvenir de Georges Perrache.
Quel pouvait être... Comment l'appelait-on ?
Est-ce qu'il avait réellement oublié ?
Quel était son nom ?
Quel était son nom ?
Je ne saurais jamais.
Avant de terminer, je voudrais vous dire que ces événements d'Algérie, reconnus aujourd'hui officiellement comme « guerre d'Algérie », se sont déroulés dans la plus grande et la plus inutile des violences. Certes, des actes barbares ont été commis de part et d'autre, mais avec cette circonstance absolutoire pour le peuple algérien qui, avec les moyens rudimentaires dont il disposait, poursuivait le but honorable auquel tendent tous les peuples épris de liberté. Son indépendance.
On peut vivre bien sans connaître son histoire familiale. On peut vivre bien, mais j'ai décidé un jour de vivre mieux. Son cadavre dans le placard.
Chut. L'idée d'un tabou, pour moi, elle doit toujours être précisément située. Là où elle n'est pas discutable, c'est évidemment au niveau individuel ou au niveau familial.
Au beau milieu de mon enquête, j'ai ressenti le besoin d'interroger mon père. De savoir ce qu'il pensait de cette histoire, lui qui n'en parlait jamais, tout en prétendant que le sujet n'était pas tabou.
Clairement, je pense que la famille est le lieu du tabou par excellence. Mais je ne suis pas sûre que ce soit valable qu'historiquement.
Je lui ai demandé de me raconter les souvenirs qui lui restaient de son père à lui. C'était il y a 10 ans. Mes relations avec lui n'étaient pas au beau fixe. C'était il y a 10 ans. J'allais avoir 30 ans et c'était un cap qui passait mal. Du fait de mon homosexualité, je savais, en tant que seul garçon de la fratrie, que je serais le dernier Perrache de la lignée. Et la perspective de cette extinction m'angoissait beaucoup. Je vous préviens, le son est pourri. Je l'ai enregistré sur un petit dictaphone. J'aurais pu le réenregistrer avec du bon matériel, mais j'ai pas eu le courage de lui imposer ça.
D'autant qu'il n'avait pas l'air très enthousiaste à l'idée que je ressorte cette histoire familiale.
Mais surtout, j'ai le souvenir de... Moi qui aimais beaucoup mon père pour ses faiblesses et son destin pas très heureux.
Ce jour-là, il m'a parlé pendant une heure et demie. Il a parlé de ce dont on n'avait jamais parlé et qu'il n'avait peut-être jamais raconté à personne. Il m'a parlé des obsèques, du corps de Georges exposé dans la cour, de la sonnerie aux morts, des grandes pompes et du décorum. Mais surtout, il s'est revu, lui, marchant derrière le cercueil.
Mais ce qui m'a, dans ce moment-là, ce qui m'a le plus frappé, c'est que, naturellement, à un moment donné, derrière le cercueil de mon père, je lui ai dit « je t'aime, confessé ». Ça, rien que d'y penser, si tu veux, c'est le résumé de l'amour inconditionnel, quoi. D'un père à son fils, d'un fils à son père, enfin, moi. Et ça, c'est magnifique.
J'arrive pas à finir cette histoire sur mon grand-père.
Ouais. Oh, mais là, je peux pas t'aider.
Ben non, mais j'allais te demander pour ce que tu sais, pour ton métier,
ouais.
Ton expertise.
Ouais.
On en est où en France en 2016 sur la question algérienne de la guerre d'Algérie ?
Ça dépend qui. Il y a des gens pour qui c'est rien. Ça n'a jamais rien été. Ça, c'est quelque chose que je tiens toujours à rappeler, quoi. Évidemment, tous les anciens combattants, tous les ex-harkis, tous les Algériens vivant en France, enfin, il y a un nombre de gens concernés dans la société française qui est vraiment énorme. Et qui ont souvent le sentiment que rien n'est réglé, que c'est pas fini, que la guerre continue, qu'ils vont pas s'en sortir, etc.
C'est nous les Français d'Algérie, c'est nous les pieds noirs et hardis, qui attendons reconnaissance pour ce qu'on a fait pour la France. C'est nous les Français d'Algérie.
La Marseillaise, même en reggae, ça m'a toujours fait dégueuler.
Moi, je me suis souvent posé la question de ce qui pourrait penser les plaies. Et en fait, je ne vois pas de réponse.
J'ai effectué une dernière démarche pour mon grand-père. Faire reconnaître officiellement son statut de mort pour la France.
Par courrier reçu le 11 avril 2005 dans nos services, vous souhaitez que la date et le lieu de décès de Georges Joseph Eugène Perrache soient rectifiés.
Et à cette occasion, sur son acte de décès, j'ai encore découvert d'autres informations. Notamment qu'il aurait épousé une certaine Henriette, dont il a divorcé, avant de l'épouser à nouveau quelques années après. Bon, enfin, c'est une autre histoire.
Au vu des documents que vous avez transmis, j'ai l'honneur de vous faire savoir que les modifications ont été effectuées. Ces corrections seront portées sur le mémorial de la guerre d'Algérie, situé quai Branly à Paris.
Cette histoire n'est pas terminée. Depuis 2001, sur le pont Saint-Michel, à quelques pas de la préfecture de police, on peut lire une toute petite plaque.
À la mémoire des nombreux Algériens tués lors de la sanglante répression de la manifestation pacifique du 17 octobre 1961.
Voilà, c'est ce que dit le marbre. Mais 40 ans plus tôt, quelques jours après la manifestation du 17 octobre 1961, exactement au même endroit, on pouvait lire une autre inscription, peinte à la hâte sur la pierre grise du pont.
Ici, on noie les Algériens.
Juste en face de la préfecture.
On noie les Algériens.
Il a rapidement été effacé.
Les Algériens.
Il n'en reste qu'une photo.
Rien.
Prise pour l'éternité par Jean Texier. Quand j'étais petit, j'ai pris très peu de claques. Trop peu de claques, diraient certains. Depuis, je me suis bien rattrapé. La vie m'a balancé mon lot de gifles, de torgnoles, de tatawines, j'en passe et des mandales. Mais j'ai jamais pris autant de claques, ni aussi violentes, que depuis que je me suis penché sur l'histoire de mon grand-père. Des mois de recherche, des rencontres improbables, et des heures de lecture à compter les morts dans les deux camps, à voir et entendre les horreurs commises de part et d'autre, la torture, les massacres et les plaies qui restent béantes 60 ans après.
C'était Des Hommes et des Sons. Vous avez écouté la série De Guerre en Fils de François Perrache et de Sabine Zofigian, qui a reçu le prix Fiction francophone au dernier Foniogenova Awards. Merci à Virgile Blanc et à Clara Lacombe, à François Perrache et à Sabine Zofigian, et bien sûr à Foniogenova. Vous pouvez nous réécouter et nous podcaster sur radiocampusparis.org sur les pages de 37.2 et de Récréation Sonore.